Bonjour Gilles, merci. Les 10h10 à Santiago, une heure de moins à Washington. Désapprendre, oublier, dépasser le poids de l'histoire, se libérer des carcans qui entourent la notion de race. Voilà tout ce que nous appelle à faire notre invité du jour, l'écrivain américain Thomas Chatterton Williams. Son livre « Autoportrait en noir et blanc » vient de paraître en français. On en parle ensemble dans quelques minutes. Avant cela, le Chili qui se prépare à un week-end pascal confiné comme une bonne partie de ses voisins. Le Covid aussi contre lequel la Guadeloupe renforce ses mesures de freinage. C'est à la une du journal de l'Outre-mer, Serge Massot.
Exactement, et reportage à suivre au cœur du centre hospitalier déjà sous tension et qui craint l'arrivée de nouveaux malades.
Rendez-vous dans une quinzaine de minutes, Serge, et bienvenue à tous. Un week-end de Pâques Covidé, saison 2, cette année encore à travers le monde et en Amérique latine en particulier. Il faut oublier les grands rassemblements, une Pâques isolée, une Pâques calfeutrée. Bonjour Camille Marigot.
Bonjour.
Vous nous emmenez au Chili pour commencer votre revue de presse. L'un des champions de la vaccination, le Chili, et pourtant, là aussi, on se reconfine.
Abril de limitaciones, mois d'avril sous contrainte, titre El Día après l'annonce de nouvelles mesures de restriction hier. Élargissement du couvre-feu, interdiction des déplacements et fermeture des frontières aux étrangers tout le mois d'avril. Sur le site Emol, des experts saluent ces mesures mais estiment qu'elles arrivent un peu tard, comme Daniel Jiménez, un épidémiologiste, qui ajoute que les alertes ont été données ces dernières semaines. Pour le docteur José Miguel Bernucci du Collège médical chilien, la fermeture des aéroports ne devrait pas durer qu'un seul mois, il faut limiter au maximum la mobilité des gens.
Des mesures, Camille, qui ont aussi pour conséquence de priver de vote des milliers de Péruviens installés au Chili, un vote pour la présidentielle du 11 avril.
Oui, des Péruviens qui avaient prévu de voter dans l'un des 6 bureaux de vote que devait mettre en place l'Office national des processus électoraux péruviens. Mais El Comercio indique que le scrutin est annulé dans les localités concernées, Santiago, mais aussi Antofagasta, Iquique, Arica, Copiapo et Concepción. Selon le journal, plus de 117 000 Péruviens ne pourront pas donner leur voix. Le Chili est le quatrième pays qui abrite le plus d'électeurs de la diaspora. Ceux qui habitent en Europe, en revanche, échappent à la suspension de ce vote. Il y avait des craintes en ce qui concerne les Péruviens de France, par exemple.
8h12 à Minneapolis aux États-Unis où le procès Chauvin termine sa première semaine d'audience sur les débats de fond. Les témoins de l'affaire ont été entendus. Ceux qui ont assisté à la mort de l'Afro-Américain George Floyd sous le genou du policier blanc hier, c'est le supérieur hiérarchique de Derek Chauvin qui s'est exprimé. Et ce sergent, Camille, estime que l'agent a agi de façon disproportionnée.
David Pluger, aujourd'hui retraité, qui était interrogé donc par un des procureurs et qui lui a demandé à quel moment, selon lui, la police aurait dû cesser d'immobiliser George Floyd.
When Mr. Floyd was no longer offering up any resistance to the officers, they could have ended the restraint.
And that was after he was handcuffed and on the ground and no longer resisting.
Correct.
Derek Chauvin n'aurait pas dû maintenir son genou sur le cou du père de famille quand ce dernier a cessé de résister, explique le sergent. À Minneapolis, le Star Tribune insiste dans son titre sur le fait que Derek Chauvin n'a pas immédiatement informé son supérieur qu'il avait maintenu son genou sur le cou de George Floyd, ni combien de temps il l'avait fait. Et le journal précise que le témoignage de ce sergent est le premier récit de ce qu'a dit et fait Chauvin juste après le drame.
Et avant ce témoignage, la cour a aussi entendu celui de la compagne de George Floyd. Elle a notamment évoqué leur dépendance aux opiacés, à elle comme à lui.
C'est une histoire d'addiction aux opiacés classique, comme tant d'autres. On souffrait tous les deux de douleurs chroniques. Moi dans le cou, lui dans le dos. On avait tous les deux des prescriptions médicales. Et on est devenus dépendants. On a vraiment essayé très fort de nous en sortir.
Camille, une lutte commune qu'il partageait, titre le New York Times.
Et le journal explique que ce témoignage visait à humaniser George Floyd et à raconter autrement son addiction, alors que la défense dépeint un individu hors de contrôle et dangereux. Selon le Washington Post, l'évocation de sa lutte contre la toxicomanie permettra aux jurés d'évaluer la tolérance de George Floyd à ses opioïdes. L'accusation pourrait donc bénéficier du récit de Courtney Ross, car il prend le contre-pied de la thèse de la défense, celle d'une mort par overdose. dose.
Tout autre chose, Camille. Pour terminer ensemble, on reste aux États-Unis alors que les théâtres de New York rouvrent leurs portes ce vendredi. Hier, ce sont les terrains de baseball qui ont à nouveau accueilli les joueurs et de rares spectateurs.
Et en une du Wall Street Journal, cette photo d'un stade et de ses tribunes quasiment vides, le titre « Le baseball est de retour » et quelques fans aussi, quelques fans. Chicago s'est senti de nouveau normal pendant quelques heures, titre de son côté le Chicago Tribune au sujet du stade Wrigley, avec une réouverture dans un sentiment d'optimisme, note le journal, mais sous de strictes conditions sanitaires. Le Washington Post note, alors que le baseball tente un retour à la normale, cette nouvelle saison risque d'être très fragile car la menace du virus persiste. À titre d'exemple, la rencontre entre l'équipe de Washington et les Mets de New York reportée après la découverte de 3 cas positifs au sein de l'équipe de la capitale.
Camille Marigot, je vous propose, puisque l'on évoquait ensemble le procès Chauvin, d'écouter une voix, celle de notre invité. RFI, the world at your doorstep. Un auteur américain, contributeur au New York Times. Son livre a connu un grand succès aux États-Unis. Il vient d'être publié en français aux éditions Grasset. Ça s'appelle « Autoportrait en noir et blanc, désapprendre l'idée de race ». Bonjour Thomas Chatterton-Williams.
Bonjour.
Vous signez là un essai qui soulève de nombreuses questions, mais sonne aussi comme un appel à aller de l'avant. Un livre dans lequel votre réflexion sur cette notion de race se mêle à votre histoire. Vous vivez en France depuis 10 ans. Vous êtes originaire du New Jersey. Né d'un père noir, d'une mère blanche, vous vivez une enfance loin des ghettos et pourtant vous réussissez à vous convaincre du poids de votre identité noire. Jeune homme, par exemple, vous n'avez que des petites amies noires et ce jusqu'à votre arrivée en France et à la rencontre avec une femme blanche, la mère de votre futur enfant, une petite fille, Marlo. Votre livre, d'ailleurs, s'ouvre sur sa naissance, une enfant à la peau blanche et aux yeux bleus. Thomas Chatterton-Williams, c'est pour vous un choc?
C'était un choc pour moi. J'ai grandi avec une conception de la race très américaine, une conception binaire. Vous êtes blanc ou vous êtes noir. Vous êtes blanc ou non blanc. Et une seule goutte de sang noir fait de vous un noir. C'est une tradition et un statut légal hérité de l'esclavage. Vous savez, jusqu'à mes 19 ans, dans les années 2000, ce n'était même pas possible dans les questionnaires de recensement de cocher plusieurs cases au sujet de notre identité raciale. Vous deviez choisir. Donc je savais que j'étais métisse avec un père noir et une mère blanche, mais cela faisait quand même de moi un noir et je supposais donc que mes enfants seraient métis, mais noirs comme moi.
Et vous en venez même à vous demander si cet enfant, ce n'est pas finalement le signe de votre propre trahison, la trahison à votre camp.
Oui, je le ressentais un peu comme une trahison à une sorte de dette historique à laquelle je me sentais relié et à laquelle je suis encore aujourd'hui relié. Mais je n'avais pas les mots pour sortir de ce mode de pensée avec lequel j'ai grandi lorsque ma fille est née. Le choc de sa naissance m'a vraiment fait prendre conscience pour la première fois de l'imaginaire lié à la race. Et cela m'a pris du temps ensuite d'imaginer comment ces catégories pouvaient être remplacées par quelque chose de plus humain.
Vous dénoncez l'obsession de cette notion de race, fruit d'une histoire selon vous qui est un fardeau, et vous citez Camus, l'histoire n'est pas tout.
Oui, il y a une très belle phrase de Camus qui dit « La pauvreté et l'histoire m'ont appris que tout n'était pas bon sous le soleil, mais le soleil m'a appris que l'histoire n'était pas tout ». Je paraphrase, mais je crois que c'est l'idée profonde. Parfois, vous êtes tellement enfermé dans les blessures du passé que vous manquez le cadeau qui vous est fait d'être en vie, le présent, et les possibilités que vous offre ce présent de vous réinventer, de créer quelque chose de neuf.
Il ne faut pas oublier le passé, mais dites-vous, il faut inventer le futur et donc dépasser cette notion de race.
Je pense que vous ne pouvez pas faire ça vous-même. De toute évidence, c'est une négociation entre vous et la société pour établir votre identité. Mais je crois que nous pouvons décider de désapprendre certaines des notions que nous avons choisi d'établir et d'apprendre. La race n'existe pas sur le plan biologique. Et beaucoup d'entre nous comprennent, je crois, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette façon d'organiser le monde. Et nous pouvons oser imaginer une autre façon de faire.
C'est pourquoi, selon vous, aux États-Unis, les notions de race et de classe sociale sont trop souvent confondues. Vous racontez une anecdote, vous tractiez pour la campagne de Barack Obama à Baltimore. Les Afro-Américains que vous rencontriez, dites-vous, ne vous voyaient pas comme noirs.
This trip to Baltimore in 2008 for the campaign for Barack Obama was very
eye-opening. Oui, ce voyage à Baltimore en 2008 pour la campagne de Barack Obama m'a ouvert les yeux. Aux États-Unis, nous n'avons pas une façon très évoluée de parler des classes sociales. Les classes sont la race et inversement. Les gens ont tendance à croire qu'être noir, c'est un bloc de souffrance, de pauvreté souvent, alors qu'être blanc, c'est être privilégié, c'est une vie facile. Et la réalité de la vie aux États-Unis en 2021 est bien plus compliquée que ça. J'ai la chance d'avoir un diplôme universitaire, des parents éduqués, et lors de ce voyage dans une partie très pauvre de Baltimore, j'ai réalisé que ça ne comptait pas vraiment pour les gens de savoir que j'avais du sang noir. Ils n'avaient pas le sentiment que nous partagions la même expérience. La façon dont ils nous regardaient tous les trois, moi, mon ami d'origine allemande, et mon ami juif américain, c'était la même chose. Nous faisions partie d'une classe qui leur était étrangère. Il s'est passé la même chose à Philadelphie, dans un quartier blanc, très pauvre. Ils ne nous voyaient pas blancs comme eux. Ils nous ont vus comme des étrangers, issus d'une autre classe sociale, un statut qui ne pouvait pas être transcendé.
La situation n'est plus la même en 2021, vous dites, Thomas Chatterton-Williams. Vous ne niez pas ce que vit aujourd'hui la communauté noir aux États-Unis. On est en plein procès de Derek Chauvin, ce policier blanc impliqué dans la mort de George Floyd. À ce sujet, vous dites « Je n'ai aucune raison de craindre que cela arrive à Marlowe et c'est pour vous un soulagement. »
C'est quelque chose de compliqué à concevoir. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a sans aucun doute un parti pris basé sur la couleur de peau et davantage de violence à l'encontre des Afro-Américains de la part de la police. En fait, pour coller à la réalité, j'aurais dû dire « C'est vrai qu'aux États-Unis, n'importe qui peut être tué par la police. » Sur environ un millier de personnes tuées chaque année par la police, 250 sont noires, ce qui est deux fois plus proportionnellement à la population blanche, ce qui est énorme comparé à l'Europe occidentale, au Royaume-Uni ou à la France. Alors c'est un peu facile de dire que ça n'arrivera pas à ma fille, mais ça ne lui arrivera pas à cause de sa race, c'est ça que je voulais dire. Ce qui est arrivé à George Floyd n'arriverait pas à la majorité des Afro-Américains, et cela n'arriverait sans doute jamais aux Afro-Américains d'une certaine classe sociale. George Floyd n'était pas juste un homme noir tué par la police, il était un noir pauvre. Il a été confronté à la police parce qu'il n'avait pas d'argent et il a utilisé un faux billet. Si l'on veut comprendre ce qu'il s'est passé, il faut apprendre à séparer cette question du discours général sur la race.
Un aspect sans doute moins mis en avant par Black Lives Matter. Vous partagez d'ailleurs, dites-vous, les objectifs de ce mouvement, moins la façon d'agir.
Oui, je suis d'accord sur le fait qu'il y a de nombreux aspects de la police américaine qui doivent être réformés. C'est une police extrêmement brutale, comme je le disais, si on la compare à celle d'autres pays riches. Donc je crois que ce mouvement pour les vies des Noirs a éveillé les consciences aux violences perpétrées au nom de la loi dans la société américaine. Ce que je ne partage pas, c'est que le discours soit entièrement tourné autour d'identités raciales séparées. Cela renforce l'idée qu'il y a des vies blanches et des vies noires, et que ces vies sont différentes. Au contraire, je crois qu'il y a des valeurs que nous devrions tous partager et défendre. Et lorsque la police cible des Noirs ou met leur vie en danger, nous devrions partager ce même besoin en tant qu'Américains de réformer nos institutions. Je crois qu'essentialiser les différences et ramener tout le discours aux seules vies des Noirs nous ramène en arrière au lieu de nous pousser en avant comme l'ont fait Martin Luther King et le mouvement des droits civiques avec une vision universelle de l'humanité, ce qu'on retrouve en France dans la notion d'idéal républicain.
À ce titre, Thomas Chatterton-Williams, quel regard portez-vous sur la polémique qu'il y a eu très récemment aux Pays-Bas autour de la traduction du poème de la jeune Amanda Gorman prononcé le jour de l'investiture de Joe Biden? Une traductrice, une auteure néerlandaise réputée, a jeté l'éponge sous les critiques. Une personne blanche, a-t-on dit, ne peut pas retranscrire la voix d'une afro-américaine.
D'abord, c'est une façon très régressive de voir ce que notre humanité commune nous autorise à faire et de considérer le but de la littérature et de l'art en général. Alain Mabankou a une très bonne réponse à cela et c'est exactement ce que je pense. Le but de la littérature est de dépasser les identités. L'idée qu'une traductrice ne puisse pas comprendre ce qu'une afro-américaine de Los Angeles essaie de dire, cela signifie qu'un traducteur catalan en Espagne ne peut pas traduire Homère ou Shakespeare parce qu'il n'a pas vécu dans la Grèce ancienne ou l'Angleterre du XVIe siècle. On sait que cela n'a aucun sens. Mais maintenant le sujet est devenu si sensible que l'on a peur de dire tout simplement « je suis humain avant tout, rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». On a perdu le sens de cela.
En France, on débat en ce moment de réunions racisées non mixtes. Comment est-ce que vous voyez cette volonté justement de non-mixité ?
Cela me rend extrêmement triste et cela se passe aussi aux États-Unis, une sorte de néo-ségrégationnisme. Mon père a connu la vraie ségrégation au Texas. C'est tellement triste dans l'histoire aux États-Unis d'imaginer que l'on pourrait reproduire cela volontairement. Cela me paraît être un grand retour en arrière qui nous éloigne de l'objectif qui est de vivre ensemble, de se comprendre les uns les autres au lieu de glorifier nos différences. Donc, que ce soit en France ou aux États-Unis, l'idée de réintroduire l'envie de séparer les races me fait toujours beaucoup de peine.
Alors que vous appelez-vous au dépassement de la notion de race, avez-vous le sentiment finalement d'être un peu seul ?
Non, je ne représente pas la majorité, mais je crois que cette idée de rejet de la notion de race parle à beaucoup. Il y a quelques autres auteurs comme James Baldwin, un écrivain qui a vécu en France et qui parlait de désillusion au sujet de cette obsession de la couleur de peau. Donc, vous savez, c'est impossible d'imaginer un futur sans race, mais nous devons imaginer l'impossible pour le bien de nos enfants. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est un point que nous sommes peu à défendre. Nous sommes à une époque où la notion de race obsède.
Thomas Chatterton Williams, merci.
Merci beaucoup.
Et je rappelle le titre de cet essai, Autoportrait en noir et blanc, Désapprendre l'idée de race en français aux éditions Grasset.
Le journal de l'Outre-mer.
Et on en revient au Covid avec vous, Serge Massot, bonjour.
Bonjour.
La Guadeloupe se prépare à un week-end de Pâques sous restriction.
Oui, pour la deuxième année consécutive, les célébrations de Pâques s'adaptent à l'épidémie. Les horaires des célébrations religieuses sont décalés en raison du couvre-feu, les jauges sont réduites et les processions sont annulées. Du côté du centre hospitalier de Guadeloupe, les patients Covid restent nombreux, l'attention aux services de réanimation est bien palpable et les soignants redoutent une hausse de la fréquentation. Le reportage de Chloé Le Désert.
Les personnels du SAMU, des urgences ou du service de réanimation du CHU ne vont pas chômer. Certains craignent même une augmentation du nombre de patients. C'est le cri d'alarme que souhaite lancer Patrick Portecop, le chef du SAMU de Guadeloupe.
Nous souhaitons vraiment faire prendre conscience à la population de l'intérêt de se responsabiliser pour éviter au maximum toutes les situations accidentogènes ou même dans le cadre des activités domestiques, d'éviter tout ce qui est susceptible de conduire des personnes en réanimation. Parce qu'à côté du Covid, il y a la vie courante. Hein. On peut être amené à aller en réanimation après un AVC, un infarctus.
Car certains services sont en tension, voire saturés. Le personnel est débordé. Le taux de remplissage en réanimation avoisinerait les 110%. Des patients qui devaient être soignés dans ce service ont dû être transférés ailleurs. Une situation intenable qui pourrait avoir de lourdes conséquences si elle venait à durer. Patrick Portecop.
Nous serons obligés, par exemple, d'aller au-delà de la déprogrammation des soins que nous faisons, par exemple, en chirurgie, pour pouvoir récupérer le personnel de la chirurgie pour lui permettre de travailler en réanimation. Et quand vous déprogrammez des soins programmés, ben vous faites perdre des chances à ces personnes.
La prudence est donc de mise pour ce week-end, notamment chez les plus jeunes. Parmi les nouveaux cas de Covid-19, les 15-44 ans sont les plus représentés.
En Martinique, depuis hier soir, le couvre-feu est avancé à 19h jusqu'à 5h du matin et ce jusqu'au 19 avril. En Guyane, la directrice de l'Agence régionale de santé demande au préfet un renforcement des mesures de freinage. Elle constate une multiplication des clusters ces derniers jours, ce qui est le signe pour elle d'un redémarrage de l'épidémie. À quel endroit installer une nouvelle décharge ? En Guyane, la communauté d'agglomération du centre littoral doit voter le projet d'un futur centre d'enfouissement des ordures ménagères. Il s'agit de remplacer la décharge du Maringouin totalement saturé. Plusieurs sites sont à l'étude, mais personne n'en veut, en particulier les agriculteurs très présents sur ces zones. Guillaume Perrault.
Dans les cartons depuis 10 ans, mais jamais abouti, le projet d'une installation de stockage de déchets non dangereux à Kennel-Ouest semble plus que jamais d'actualité, ce qui inquiète fortement les agriculteurs et riverains. Carole Amposta, présidente de l'association de protection de l'environnement de Kennel-Trois-Rois.
Nous avons un département de 91 000 km².
Je crois qu'on va dépasser.
C'est une plantation qui a été choisie et nocif pour la production agricole et c'est sur des zones agricoles. Donc du coup, on nous demande d'être indépendants au niveau alimentaire au niveau régional. Et là, c'est carrément nuire à toute une économie du pays qui va être impactée par la pollution.
Trois associations d'agriculteurs et de riverains de Macouria, Kourou et Montcinéry Tonnegrande ont décidé de s'associer face aux trois projets de décharge. Gilles Adelson, le maire de Macouria.
Merci beaucoup Serge Massot et à vous et aux équipes de La Première.
Tous les cinémas du monde.
Elisabeth Le Quéret, Sophie Torlotta.